Ensemble.
Neuf heures en temps universel, 11 heures ici à Paris. Merci d'écouter RFI. L'actualité internationale, c'est en compagnie de Sophie Pouzerat. Bonjour Sophie.
Bonjour Namouri, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, les funérailles du pape François auront lieu ce samedi. Le Vatican vient de l'annoncer alors que partout dans le monde, des fidèles se réunissent depuis l'annonce de sa mort. Hier, c'est le cas au Mexique, vous l'entendrez. Des obsèques à organiser et un successeur à élire à la tête des catholiques. Les cardinaux doivent se réunir en conclave pour élire le prochain pape dans les prochaines semaines et quelques noms circulent déjà. À la une, également, des élus français de gauche demandent à l'État de réagir. Ils devaient se rendre en Israël, mais leurs visas ont été annulés par l'État hébreu. Et puis, les célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO débutent aujourd'hui. C'est à Accra que ça se passe. On y revient tout à l'heure dans ce journal. L'émotion est toujours vive autour du monde après la mort du pape François. Hier, le Vatican vient d'annoncer la date des funérailles du souverain pontife. Elles auront lieu samedi à 8h, temps universel, alors que tout autour du globe, des fidèles se rassemblent pour honorer sa mémoire. C'était le cas hier, au Mexique, les croyants en deuil se sont retrouvés à la célèbre basilique de la Guadalupe, le second plus grand lieu de culte chrétien après le Vatican, pour célébrer une messe dédiée au pontife. La Guadalupe, une vierge métisse apparue en 1531, est une figure centrale de la croyance catholique en Amérique latine. Et pour ça aussi, le Mexique sent une relation particulière avec le pape François, premier pape latino-américain qui avait effectué une visite dans le pays en 2016. Au Mexique, le pape François était écouté, notamment sur les thèmes de la sécurité des femmes et de la crise migratoire. Gwendolina Duval.
Devant l'immense statue en bronze de Jean-Paul II, dans l'enceinte de la basilique, des ouvriers installent un autel pour honorer le pape François. Quelques fidèles, comme Cristina Castro, prennent des photos et installent des bougies.
Je me rappelle quand il est venu ici, dans cette basilique. Il a laissé une empreinte très belle, car il était un bon pape, uni à beaucoup de nations.
Toute la journée, la célèbre basilique enchaîne une quinzaine de messes pour accueillir les croyants venus en nombre. Dominicia et Oscar Juarez ont fait près de 1000 km depuis la frontière nord du Mexique.
On vient de Reynosa.
On a fait plus de 12 heures en bus pour venir ici. On a fait une nuit blanche, on est bien fatigué, mais on est là et on va aller à la messe.
On est vraiment triste pour le pape.
La verdad que sí. Y nos animamos y me traje a mi hijo.
C'est vrai, donc on s'est motivé pour venir. J'ai ramené mon fils. Même fatigué, on va prier pour notre pape bien-aimé. Il s'est beaucoup battu pour les droits des migrants, encore plus en ce moment que le gouvernement les abandonne. Nous le voyons car nous vivons à 10 minutes de la frontière. Je ne sais pas qui sera le prochain pape, mais véritablement, j'aimerais qu'il ait la même vocation et qu'il soutienne cette cause.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Le prochain pape, donc, qui devrait être élu par les cardinaux dans les prochaines semaines, et déjà, des premiers noms de successeurs potentiels émergent. Camille Dalmas.
Parmi les 135 cardinaux électeurs qui vont se retrouver à Rome dans les prochaines heures, le nom du cardinal Pietro Parolin revient régulièrement. Le secrétaire d'État italien, bras droit du pape, est un diplomate de formation et l'un des rares à être connu de tous. Deux autres Italiens ont également été particulièrement mis en avant. D'abord l'archevêque de Bologne, Matteo Zuppi, qui cumule les responsabilités, président de la conférence épiscopale italienne et envoyé spécial du pape pour promouvoir la paix en Ukraine. Puis le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, est vu comme un bon gestionnaire et un homme de dialogue dans le conflit en Terre Sainte. Après trois papes non issus de la péninsule, l'idée d'un retour à un candidat local ne fait cependant pas l'unanimité chez les cardinaux. Le profil du cardinal philippin Luis Antonio Tagle, à la tête de l'église missionnaire à Rome, revient souvent. Une figure spirituelle et joyeuse, mais très émotive. Ou bien il y a celle plus classique de l'archevêque de Budapest, le cardinal Peter Erdő. Mais gare à celui qui fait ouvertement acte de candidature, car qui entre pape au conclave en sort cardinal, affirme le dicton romain. Camille Dalmas à Rome pour RFI.
Et en attendant, des milliers de fidèles sont donc attendus aux funérailles de François, mais aussi des dirigeants du monde entier. Plusieurs d'entre eux ont déjà indiqué qu'ils se rendront aux obsèques, comme le président français Emmanuel Macron, ou encore son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, qui par ailleurs dit attendre une réponse claire de la part de Moscou au sujet de la proposition de trêve dans les frappes visant les sites énergétiques. Sur le terrain, Moscou a repris ses frappes hier sur l'Ukraine après l'expiration du cessez-le-feu proclamé pour Pâques. Une trêve précaire, décrétée par le Kremlin, mais qualifiée d'opération marketing par Paris. Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères a estimé que c'était, je cite, une opération séduction pour éviter que les États-Unis ne s'impatientent. Car on le rappelle, les États-Unis de Donald Trump menacent de se retirer du dossier ukrainien si les négociations de paix n'aboutissent pas rapidement à un résultat. Dans l'actualité également, Israël poursuit ses frappes à Gaza. Ce matin, la défense civile palestinienne évoque 25 morts au moins dans des bombardements à Gaza, ville dans le centre de l'enclave. Des tirs ont également visé Khan Younes dans le sud. Une frappe israélienne signalée aussi au Liban. Un responsable sécuritaire signale la mort dans cette frappe du chef d'un groupe islamiste, la Jamaa Islamiyah, lié au Hamas palestinien. Et dans ce contexte, en France, une délégation de parlementaires et d'élus locaux de gauche qui devait se rendre cette semaine en Israël et dans les territoires palestiniens a vu ses visas annulés au dernier moment par l'État hébreu. Une décision qui suscite la colère et l'incompréhension parmi les participants. Ils appellent l'État français à réagir, Aurélien Devernois.
Ils auraient dû atterrir ce dimanche en Israël pour une visite de 5 jours à l'invitation du consulat français de Jérusalem. Mais mauvaise surprise vendredi pour les 27 élus composant la délégation. Leurs visas sont annulés, incompréhensibles pour le député apparenté écologiste Alexis Corbière.
C'est une forme de rupture de relations diplomatiques. Nous ne refusons pas l'entrée sur le territoire national à ma connaissance d'élus israéliens. C'est un geste agressif envers la France.
L'État hébreu estime que la délégation aurait pu agir contre les intérêts israéliens. Faux, selon l'élu communiste Philippe Rieu, président de l'Association des maires pour la paix en France.
Nous étions en lien avec le consulat qui avait validé notre parcours. Nous devions rencontrer aussi des représentants du peuple israélien à la Knesset. Ces arguments sont fallacieux.
Les membres de la délégation s'étonnent surtout du deux poids deux mesures avec des élus d'autres bords. Alexis Corbière.
J'observe que quand c'est l'extrême droite française, elle est accueillie par des membres du gouvernement. On a vu Marion Maréchal Le Pen, Monsieur Bardella. Nous, des gens de paix, bon, nous sommes interdits. Ça interroge sur la nature de la démocratie israélienne.
Les 27 élus demandent donc être reçus par Emmanuel Macron afin d'éclaircir la situation, tout en estimant que la décision d'Israël n'est sans doute pas étrangère à l'annonce du président français d'une possible reconnaissance par Paris d'un État palestinien en juin prochain.
Aurélien Devernois, le président français Emmanuel Macron, qui est à La Réunion en ce moment, en tournée dans le sud-ouest de l'océan Indien. Le chef de l'État doit répondre ce mardi aux inquiétudes des habitants de l'île, meurtrie par le cyclone Garance et très affectée par une épidémie de chikungunya qui a fait 6 morts depuis le début de l'année. Auparavant, à Mayotte, il a promis plus de 3 milliards d'euros pour la reconstruction des infrastructures détruites 4 mois après le passage du cyclone dévastateur Chido. Je vous en parlais dans les titres, les 50 ans de la CEDEAO sont célébrés à partir de ce mardi. Les chefs d'État des 12 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont attendus à Accra, au Ghana. Et c'est l'heure de faire le point près d'un an après le départ des 3 pays de l'AES. Au commencement, le rôle de la CEDEAO devait avant tout être économique. Alors économiquement, qu'est-ce qu'elle a permis? Il y a eu des avancées, mais les objectifs, notamment un marché commun ouest-africain, n'ont pas tous été remplis, Alexis Bédu.
Parmi les succès, on peut citer la libre circulation des personnes et des biens avec la carte d'identité CEDEAO. Pas besoin de carte de séjour pour accéder à tous les emplois hors emploi public dans les pays de la région. C'est la grande réussite selon le chercheur sénégalais Papi Brahima Kane qui cite également la taxe communautaire permettant une harmonisation des droits de douane. Plus mitigé, les projets d'infrastructure avec des corridors de transport, seul celui entre Abidjan et Lagos est une réalité. D'autres réseaux routiers ne sont pas à la hauteur des promesses. On en arrive aux échecs. Le commerce intra-régional stagne à moins de 15% du total des exportations. Chaque pays continue de mener sa barque seul. Les économies se sont révélées peu complémentaires et la monnaie unique, l'écho, a été plusieurs fois annoncée mais toujours reportée. Alors, les disparités de ressources entre les pays, le manque de leadership, le Nigeria qui devait être la locomotive de la CEDEAO reste embourbé dans des problèmes politiques, économiques et sécuritaire. Les crises à répétition, dont la dernière en date reste la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso, voilà un enchevêtrement qui a empêché la CEDEAO d'atteindre ses ambitions de 1975.
Les explications d'Alexis Bédu, et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr la réécouter sur notre application mobile RFI Pure Radio. Il est 11h et presque 10 minutes à Paris, 9h10 en temps universel.